ravi de vous retrouver sur VOA Afrique pour parler de sport. Et comme toutes les fois, je serai avec mes consultants. Le premier est en ligne de Columbus dans l'Ohio. Ahmedine Sy, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Du côté de Libreville au Gabon, nous avons Jules Valentin Ngwe. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Lawal Jim Kosuro est lui en direct de Porte Nouveau au Bénin. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Et puis, dans la capitale espagnole, Madrid, nous avons Amine Birouk qui a assisté au sacre du Real. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Justement ce soir, nous allons parler de cette 15e étoile des Merengues qui ont battu en finale le Borussia Dortmund. Ensuite, on parlera du Petro Atlético de Luanda, vainqueur inédit de la Basketball Africa League. Sporama, c'est parti. La fenêtre FIFA s'ouvre ce 3 juin, ce qui va permettre aux sélections africaines de bien préparer leurs deux prochains matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et avec la présence de presque tous ses cadres, le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial au Qatar, a démarré sa préparation le jeudi dernier au complexe Mohamed VI. Amine, le sélectionneur des Lions de l'Atlas aura dans ses rangs Brahim Diaz et Yassine Bounou pour affronter la Zambie et le Congo.
Le Maroc qui va devoir reprendre ses bonnes vieilles habitudes avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, deux rencontres au programme. Vendredi prochain face à la sélection zambienne à Agadir à partir des 19h GMT. Et puis il y aura un déplacement, il va falloir quand même déterminer où aura lieu la rencontre puisqu'initialement elle devait se dérouler à Kinshasa en RDC. Elle devait opposer le Congo au Maroc, le Congo-Brazzaville. Mais la fédération marocaine, vu les incidents ou les troubles qui ont eu lieu du côté de la RDC, souhaitait des éclaircissements pour savoir si elle pouvait se déplacer en toute sécurité. Sinon, il faudrait délocaliser la rencontre. Mais pour l'instant, aucune information n'a filtré dans un sens ou dans l'autre. On disait donc que le groupe est au complet ou presque, puisque Ayoub Kaabi l'a rejoint après la victoire de son club Olympiakos en finale de la Conference League. Ayoub Kaabi qui a été le principal héros de cette finale. Et puis, les deux derniers lions de la classe devraient rejoindre dans les prochaines heures l'équipe, commencé par Yassine Bounou, vainqueur de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite, lors d'un duel homérique entre l'équipe d'El Hilal et d'Anas, où encore Bounou s'est distingué avec deux pénalties arrêtées au cours de la séance des tirs au but et de nombreux arrêts réflexes, notamment devant Cristiano Ronaldo. Et puis, il y a Brahim Diaz qui n'a pas participé en tant que joueur de champ lors du match de la finale de la Champions League, mais qui a été de toute l'aventure du Real Madrid. Brahim Diaz qui a fêté avec les Merengues ce 15e sacre. Normalement, le groupe devrait être au complet à partir de demain. Et puis, il y aura tout un travail de montée en puissance pour pouvoir avoir une équipe qui carbure et surtout qu'on puisse effacer l'impression mitigée laissée lors des deux dernières sorties amicales contre l'Angola et la Mauritanie. L'équipe du Maroc doit faire le plein de points pour pouvoir rassurer ses supporters, se rapprocher davantage de la Coupe du Monde et surtout se dire que le chemin est long puisque les éliminatoires ne vont se terminer qu'en novembre 2025 et qu'il faudra finir premier du groupe pour pouvoir éviter la moindre surprise. Le groupe est largement à la portée du Maroc avec outre le Congo, la Zambie, la sélection tanzanienne et la sélection du Niger, entraînée par une vieille connaissance des Lions de l'Atlas, l'ex-sélectionneur marocain de reprise, Zeki Bedou.
Merci Amine. Le Sénégal en recrutement depuis bientôt une semaine se prépare pour affronter la RDC et la Mauritanie. Maintenant, Ahmedine Sy, en attendant d'avoir aussi son groupe au complet, Aliou Cissé a convoqué trois joueurs locaux.
Tout à fait, Élisée, il s'agit du défenseur de Tenguek FC, Sidy Sow. Sidy Sow qui vient de remporter le championnat sénégalais avec son club Tenguek FC. Donc, pour le moment, il s'entraîne avec l'équipe. Et il y a aussi deux joueurs du Djarafan, Souleymane Cissé et Aimé Tendeng. En fait, ces trois joueurs ont été appelés pour compléter un peu le groupe hein, puisque le groupe n'est pas encore au complet et il faut faire des oppositions. C'est pourquoi Aliou Cissé a fait appel à eux en attendant l'arrivée quand même de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Lamine Camara. Ce sont trois joueurs qui ne sont pas disponibles car ils jouaient ce week-end avec leur club. Mais cela n'a pas empêché quand même le staff technique de continuer la préparation. Cela se poursuit toujours quand même au Stade Abdoulaye Wade de Djebniadio. Je rappelle que le Sénégal fera face à la RDC le 6 juin, ce sera au Stade Abdoulaye Wade, et ensuite les Lions de la Teranga iront défier la Mauritanie le 9 juin. Il faut dire que ces deux matchs très importants, puisque non seulement c'est les matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde où le Sénégal est leader, le Sénégal qui vient d'enchaîner quand même deux Coupes du Monde, donc l'objectif est de repartir quand même jouer cette Coupe du Monde, mais aussi le Sénégal doit redorer son blason un peu terni par l'élimination en huitième de finale lors de la dernière CAN par la Côte d'Ivoire. Donc ce sera le premier match depuis cette élimination de la CAN devant la République sénégalaise. Donc Aliou Cissé fera tout pour quand même se réconcilier avec le public sénégalais. En tout cas, ce ne sera pas facile parce que le premier match, ce sera face à la RDC, des finalistes de la dernière Coupe d'Afrique. Élysée.
De son côté, Kenod Roy, déjà à Abidjan depuis quelques jours, aura tous ses joueurs à partir de ce lundi. Le sélectionneur d'équipe a étendu s'est exprimé au micro de nos confrères ivoiriens.
Donc, comme c'est la trêve, voilà, et la fenêtre FIFA ne commence que le 3 juin, on avait envie de les préparer un peu avant. Et nous sommes dans des bonnes conditions en Sofitel et on a un terrain d'entraînement de grande classe. Et ça nous permet de bien travailler et de préparer nos matchs contre le Rwanda qui aura lieu le 6 juin à 19h au stade Félix Boigny et le deuxième match contre le Nigeria le 10 juin à 16h.
Lawal, Guénaud Roy ne se met pas trop la pression malgré le forfait de l'attaquant de Rodez, Andreas Moutondji, blessé.
La pression, c'est le mieux qu'il puisse éviter parce que fondamentalement, quand on connaît un peu la qualité du championnat béninois et quand on connaît le passé de l'équipe des départs, on doit pouvoir s'attendre forcément qu'il n'y ait pas de pression sur l'entraîneur et c'est ça le plus important. Moutondji est forfait, c'est vrai, mais quand il vient en équipe nationale, il n'est pas aussi décisif que cela. Donc, en l'absence de Moutondji, il y a Jodel Dossou qui est convoqué, donc forcément l'attaque béninoise va avoir quelque chose à prouver. Le seul hic, c'est le déplacement des supporters qui va peut-être poser problème parce que le Bénin joue désormais à Abidjan au lieu de jouer à Cotonou. Donc Guénaud Roy a tout à faire pour montrer depuis qu'il est là qu'il est quand même capable de gagner quelque chose pour le Bénin.
En revanche, c'est dans une situation confuse que le Cameroun va démarrer sa préparation. À Hilton Hotel, où sont logés les Lions indomptables, Jules, les jours passent, mais rien ne change. Le bras de fer se poursuit.
En tout cas, Élisée, si rien ne change avec cette crise persistante, au moins ses fondements réels commencent à éclater au grand jour. Ce n'est plus l'attribution des postes techniques sportifs harmonisé lors des récentes réunions de sauvetage où le consensus n'a pas été difficile à trouver, qui pose problème, mais uniquement le poste juteux de coordonnateur général des sélections nationales où le nerf de la guerre est géré. La passe d'armes digne d'un western qui a eu lieu ce dimanche entre les deux parties à l'hôtel Hilton de Yaoundé a remis à l'ordre du jour le véritable conflit de compétences opposant les deux camps quant à la gestion des finances du nouveau pétrole qu'on appelle le football, qui ne se rappelle la période sombre des primes impayées ou tardives, là où les inconditionnels du Pichichi, eux, prétendent que tout va pour le mieux depuis qu'il est là. Dans tous les cas, le temps presse et il est urgent que la plus haute autorité de l'État ne se limite plus à favoriser l'apaisement, mais sorte les cartons rouges afin de remettre le bateau ivre à flot et éviter au grand pays de football qu'est le Cameroun de connaître l'humiliation suprême d'une suspension de la FIFA qui se rapproche dangereusement.
Et voilà qui est clair et loin des tensions. Le Ghana fera sans André Ayou, capitaine emblématique des Black Stars. Depuis la retraite de Gian Asamoa, le milieu de terrain ne figure pas dans la liste dévoilée par Otto Addo pour les deux matchs contre le Mali et la Centrafrique. À noter que cette troisième et quatrième journée s'étale du mercredi 5 au mardi 11 juin. Au total, 52 matchs en une semaine. La saison a pris fin en Europe avec la finale de la Ligue des Champions et le Real Madrid en puissance 15 après avoir battu dans la douleur le Borussia Dortmund à Wembley. On se dirige vers le plus meringué des Marocains, Amine Birouk, qui est à Madrid en train de savourer ce sacre. Alors Amine, belle consécration du club de Brahim Diaz invaincu dans cette compétition.
Le moins que l'on puisse dire, Élisée, c'est que c'est la logique qui a été respectée, en tout cas sur le plan comptable. La finale aurait pu très mal tourner pour le Real Madrid parce que le Borussia Dortmund avait vendu très chèrement sa peau, notamment en première mi-temps, se créant de très nombreuses occasions de la part d'Adeyemi ou de Füllkrug. Et s'ils avaient été un poteau ou les arrêts miraculeux de Thibaut Courtois, la déroute aurait été le signe annonciateur, ou plutôt le signe le plus évident de cette première partie du match. Carlo Ancelotti a repris les choses en main, il a réajusté l'organisation de son équipe et on a vu un Real conquérant, enfin fidèle à l'image qu'on avait découvert tout au long de la saison. Les buts de Carvajal et de Vinicius Junior ont été la conséquence logique de ces dominations pour un Real invaincu tout au long de la compétition et qui aura un Africain à son palmarès, ou en tout cas un Africain champion d'Europe cette saison. Il s'agit de l'international marocain Brahim Diaz. Le Real Madrid, c'est une légende, c'est 15 Ligues des Champions, Coupe d'Europe des clubs champions. C'est le total amassé par tous les clubs anglais dans la plus prestigieuse des compétitions. Le Real qui devance de très très loin l'équipe qui le talonne, il s'agit du Milan AC avec 7 sacres seulement. Et aujourd'hui, Madrid est une ville en ébullition. Elle a communié avec son équipe dans tous les lieux chauds de la ville, et notamment au Santiago Bernabéu, où un visionnage spécial du match devait avoir lieu en même temps que la finale de Wembley, puisqu'il y avait 80 000 supporters, c'était un véritable chaudron. Puis tout au long de la soirée, notamment dans la place Cibeles, et puis le dimanche où il y a eu le cérémonial, le traditionnel, lorsque le Real remporte un titre, présentation devant la mairie, devant la région, la communauté autonome de Madrid, devant la fameuse statue de la déesse Cibeles, et puis l'apothéose au stade Santiago Bernabéu, où on a vu des joueurs en larmes, et notamment Toni Kroos qui faisait ses adieux à l'équipe du Real Madrid. On va voir maintenant, est-ce que l'équipe va pouvoir changer ou prendre une autre dimension. Quid du renouvellement de contrat de Luka Modric ou des vétérans Nacho et Lucas Vázquez, et surtout, comment le Real va adopter sa recrue méga galactique. L'annonce devrait se faire dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Il s'agit de Kylian Mbappé.
Un autre qui est aux anges en attendant la présentation de l'attaquant français Lawan Dilkos ou Rotupi Port-Novo. Alors, Lawan, avec 15 étoiles, dont 5 décrochées sur les 10 dernières années, le Real Madrid est monté sur le trône au terme d'une saison flamboyante, avec seulement 2 défaites en 54 matchs. C'est tout simplement extraordinaire, surtout la conclusion avec la C1.
Extraordinaire, c'est peut-être un peu trop petit pour qualifier la saison flamboyante du Real. C'est suprémissime, je vais utiliser le mot là, pour montrer que le Real a dominé de long en large cette saison 2023-2024. Et la conclusion, c'est le sacre, la 15e étoile sur le maillot des merengues. Et le Real était simplement imbattable, et il y a comme un esprit qui guide le Real. Il y a ce site particulier où il s'adapte à toutes les situations, et depuis que le Real a battu Manchester City en quart de finale, personnellement je me suis dit, entre les deux, City et Real, celui qui va l'emporter en quart de finale sera champion, et ça s'est concrétisé, et c'est simplement extraordinaire. Et je fais un grand salut à Ancelotti pour tout le travail qu'il a fait jusque là. Mais la saison du Real, 54 matchs, 2 défaites, et seuls les Colchoneros ont réussi à défaire cette équipe là donc bravo à Simeone également, mais le Real est simplement cette saison intouchable.
Et pourtant, Tottenham s'est montré plus dangereux en bousculant le Real avant de s'effondrer au premier coup dur. Amédine, le club allemand a payé cher son espèce.
Élysée. Le club allemand paye très cher en son manque d'expérience car ils ont été vraiment impeccables durant cette finale, impeccables durant seulement 75 minutes hein, où ils ont dominé le Real de Madrid. Ils ont même malmené hein, les Espagnols à un moment de ce match. Ils se sont procurés beaucoup d'occasions sans pour autant faire trembler les filets. Mais les Madrilènes ont réussi quand même à renverser la vapeur en quelques minutes grâce à Carvajal et à Vinicius. Et ils se sont offerts quand même leur 15e titre de l'histoire. Donc il y a c'est vraiment dommage hein, pour les Allemands qui vont regretter quand même les 75 minutes qu'ils ont dominé les Espagnols. Mais comme vous le savez, maintenant, on dit que la Ligue des Champions, c'est un match qui se joue 11 contre 11. Mais à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. En tout cas, les faits leur donnent raison puisque depuis un certain temps, le Real réussit toujours à gagner ces matchs, surtout quand il s'agit de la finale de la Ligue des Champions.
Voilà, une domination en première partie qui n'a rien donné, de quoi nourrir forcément des regrets. Illustration avec l'attaquant ivoirien Sébastien Haller, entré en fin de match.
On a fait un beau match, malheureusement c'est la chose la plus importante qu'il fallait faire dans le match, c'était concrétiser et vraiment mettre le point final à cette domination. Mais voilà, c'est ce qu'on a peut-être manqué, mais ça sera, on l'espère, pour une prochaine fois. C'est des détails, c'est ça, c'est ce qui fait l'histoire, c'est ce qui change tout, le football c'est ça.
Alors, Jules, on a encore un Real avec cet esprit clinique qui peut faire basculer une rencontre sur un seul geste face à un Borussia Dortmund à qui il a manqué quelque chose.
On peut le dire, Élisée. Pour cette finale de Wembley, où le Real Madrid ambitionnait de porter son record de victoire en Ligue des Champions à 15 unités, la mythique formation espagnole a réussi son pari en inversant une fois de plus le sort d'une rencontre qui lui échappait grâce à un coup de pied de coin du vétéran Toni Kroos, qui trouvait la tête de son coéquipier Carvajal à la 113e minute, un véritable hold-up. Jusque-là, les Allemands avaient multiplié les occasions à l'appel, surtout en première mi-temps, gagnant aussi leur duel défensif face à l'habituel trio infernal de l'attaque adverse, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Mais le gardien belge Thibaut Courtois multipliait les arrêts. C'est pourtant le but couperet de Carvajal de la 113e minute, suivi du but du break marqué par l'inévitable Vinicius Junior à la 83e minute qui donnera une victoire inespérée au Real, comme pour confirmer l'adage « dominer n'est pas gagné ». Mais à vrai dire, ce n'est pas le Real qui a gagné, mais plutôt Dortmund, par manque de réalisme, qui a perdu.
Épilogue également de la Basketball Africa League à Kigali au Rwanda, avec cette fois un vainqueur inédit, le Petro Atlético de Luanda qui s'offre enfin le trophée après 4 éditions. Troisième lors de la première édition, deuxième l'édition suivante et quatrième l'année dernière, les Angolais montent finalement sur la plus haute marche du podium. Victoire 107-94 sur les Libyens d'Ali Benghazi. Amine, c'est une petite délivrance.
C'est très logique pour le basketball angolais. Petro Atlético est un bastion fort du basketball angolais qui a été longtemps la locomotive de la discipline sur le continent. Puis c'est une progression linéaire, comme vous l'avez signalé, avec piano, une présence sur le podium. Ensuite, l'équipe est allée petit à petit vers les sommets, comme en atteste sa victoire en finale contre les Libyens d'El Hali Benghazi, 107-94. C'est une petite délivrance pour une équipe qui devait tenir son rang de favorite. L'Angola pèse beaucoup plus que la Libye en basketball. Il fallait concrétiser ce statut sur le parquet. C'est chose faite ici à Kigali. On dira que ce n'est qu'un juste retour des choses pour Petro Atlético et pour le basketball angolais qui est aujourd'hui, ou qui a été pendant très longtemps, il faut le souligner, le pays le plus avancé dans cette discipline. avant l'émergence de nations comme le Nigeria ou la Tunisie ou le retour en force de bastions forts comme le Sénégal ou l'Égypte.
Après quatre saisons, il était temps pour l'un des clubs les plus organisés, le Petro de Luanda, et son capitaine Carlos Moraes, très content du titre. Alors, Jules, c'est un sacre qui met du coup fin à l'hégémonie des clubs d'Afrique du Nord sur le basket africain.
Élisée, si on s'en tient au plan statistique, la brillante victoire finale et le parcours progressif de la formation de Petro de Luanda pendant cette quatrième édition de la Basketball Africa League met un terme à l'hégémonie de l'Afrique du Nord ces dernières années. Mais son succès n'est pas une surprise absolue au vu de son vécu, comme celui de l'Angola dans l'histoire du basketball africain, que ce soit au niveau du continent, de sa représentation dans les compétitions internationales ou de l'apport de ses joueurs majeurs, comme l'emblématique Carlos Moraes, auquel son club de Petro et son pays ont voulu offrir le seul trophée qui lui manquait, celui du bal, avant qu'il ne se retire. Il n'a fallu à Petro, habitué à être dans le carré d'as depuis la création de cette compétition d'élite, que de soigner son renforcement sur le parquet comme sur le banc, de faire une préparation plus poussée pour atteindre l'objectif visé, la victoire. Cet ancien joueur de la NBA a ainsi été couronné après cette victoire brillante en finale contre Al Ahly de Benghazi et son dieu infernal Robert Golden et Olajuwon, muselé avant d'être débordé en deuxième mi-temps, tout comme l'AS Douane du Sénégal l'avait été en demi-finale, ce qui a prouvé la qualité du banc de Petro. L'appétit venant en mangeant, on espère que cela va mettre fin à la domination absolue de l'Afrique du Nord.
Une quatrième saison vraiment relevée et qui a battu des records de spectateurs. Plus de 100 000 personnes ont assisté au match des phases finales et des conférences au Caire, à Dakar et à Pretoria. À Médine, c'est un championnat primordial pour le basket africain avec cette bonne organisation qui l'entoure.
Oui, Alizé, cette compétition est en train de grandir d'année en année avec une bonne organisation. Et sur le parquet aussi, sur le parquet, les joueurs assurent quand même le spectacle. J'ai envie même de dire que la balle, les joueurs sont en train d'allier le spectacle et l'efficacité. Il y a aussi beaucoup de suspense quand on regarde les matchs. Le niveau est très bon, les gens jouent un très bon basket. Je t'avoue, Élisée, encore que je suis tombé sur le charme de cette compétition. Pour moi, il ne fait aucun doute, c'est la NBA version Afrique, car cette compétition est très élevée et c'est vraiment intéressant de suivre les matchs. Le public commence à venir, on a vu les conférences Sahara de Dakar, où bon, on a eu le public à Kigali aussi, les gens commence à venir au niveau aussi de la conférence Nil, le public suit. Donc vraiment, c'est une compétition exceptionnelle. Et cette année, le Petro Luanda d'Angola a gagné son premier titre. Une équipe très régulière qui a remporté son premier titre de l'histoire face à Al Ahly de Benghazi, un néophyte qui a bouleversé la hiérarchie pour se retrouver en finale, et on a assisté à une très très belle finale. La preuve d'ailleurs, c'est la première fois que le scoring d'une finale de la balle dépasse le cap des 90 et 100 points. Cela veut dire ce que cela veut dire. En tout cas, chapeau aux organisateurs et aux joueurs, car la balle est en train de grandir et c'est une compétition qui régale les amateurs de la balle orange et les ailes.
Merci à Médine. À noter que la phase finale de la saison 5 prévue l'année prochaine n'aura pas lieu au Rwanda, ainsi en ont décidé les organisateurs. Ce sera une première. Allez, Sporama qui s'achève. Merci de l'avoir suivi un peu partout dans le monde. On remercie aussi nos consultants. Lawa Dinkosuro à Port-Novo au Bénin, Jules Valentin Ngoué à Libreville au Gabon, Amine Birouk cette fois était à Madrid, la capitale espagnole, puis Amédine Sty dans l'Ohio aux États-Unis qui partage le même fuseau horaire que Washington où émet la radio. À lundi prochain pour le même plaisir. Au revoir.